Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité des marchés financiers, parfois aidés d'une compréhension économique ou politique. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir trois experts en plateau ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Alexandre Baradez. Bonsoir Alexandre Baradez.
Bonsoir Nicolas.
Chef analyste chez IG. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Marc Riez. Bonsoir Marc Riez.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de Vega Investment. Nous avons le plaisir d'accueillir également Aymeric Didet. Bonsoir Aymeric Didet.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes directeur de la gestion de Pergam. Je vous propose de commencer avec vous, tiens, Marc Riez. J'ai envie de vous poser une question assez ouverte pour ouvrir cette discussion. Que regarde-t-on à l'heure actuelle sur les marchés financiers? Quand on est en France, on a les yeux rivés sur un CAC 40 qui traverse une mauvaise passe en lien avec un risque politique. On a regardé pendant des semaines et des mois, si ce n'est des années, les politiques des banques centrales dont on a l'impression que ça devient un sujet, mais pas forcément le premier sujet à l'heure actuelle sur les marchés financiers. On a des marchés américains qui, eux...
Caracolent,
ou en tout cas certaines valeurs parmi les sur les marchés américains caracolent. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui quand on veut décrypter ce qui se passe sur les marchés financiers, Marc Riez?
Alors aujourd'hui, comme toujours pour moi, on regarde quand même d'abord du côté de Wall Street, parce que... Bien sûr, nous sommes français, bien sûr, nous sommes très concernés par ce qui peut arriver à notre pays, à ce qui peut arriver aux valeurs françaises qui sont cotées et qui, pour certaines, évidemment, sont un peu fragilisées par ce qui est en train de se passer. Mais globalement, la France n'assure pas la marche, malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, de l'économie mondiale.
L'économie mondiale,
c'est d'abord l'économie américaine, et c'est un peu cette dynamique de l'économie américaine qui tracte, en fait, l'ensemble des marchés boursiers. Même si, bah, localement, il peut y avoir des inquiétudes, avec des prises de profit, etc., ponctuelles. Mais à la fois, les grandes valeurs sont cotées aux États-Unis, les grandes valeurs mondiales, à quelques exceptions près. Et puis aussi, les grands investisseurs sont américains. Et donc, beaucoup d'entre eux ne savent même pas localiser la France sur une carte du monde. C'est une partie de l'Australie pour certains, pas loin de la Russie, parce qu'ils ont entendu parler de l'Ukraine pour d'autres. Tout ça pour vous dire que nous, gérants, l'Amérique reste la boussole de nos investissements, de nos positions. C'est vrai, vous l'avez dit, que ce que vont faire les banques centrales nous a absolument monopolisé pendant de très longs mois, de longues années. Là, maintenant, on a une idée à peu près claire de ce qui pourrait se faire. On a vu que la Banque centrale européenne a commencé à baisser ses taux, que la Réserve fédérale américaine, qui est quand même l'élément leader, pour le coup, va sans doute attendre après les élections américaines parce que l'économie est solide. Et alors, pour le coup, ça aurait pu être, ce report des baisses des taux de la Réserve fédérale, une raison pour le marché de prendre de vrais profits, de corriger vraiment massivement. Et on voit que c'est pas le cas. Le marché a digéré, en fait, l'information qui était que les six baisses de taux qu'il attendait pour 2024, puis 4, puis 2, puis maintenant une seule...
C'est finalement intégré assez facilement par le marché.
Ça s'est intégré, ça aurait pu générer une vraie correction, ça n'a pas été le cas, et ça n'est pas le cas parce que l'économie américaine montre qu'elle s'en sort pas si mal, elle ralentit, c'est vrai.
Bien sûr.
On a vu 5,3 de croissance du PIB américain au T3 2023, puis 3,4 au quatrième trimestre, puis 1,3 seulement au premier trimestre de cette année, mais on voit qu'il n'y a pas de vrai effondrement de l'économie américaine. On a parlé tout à l'heure, Pauline a cité la production industrielle aux États-Unis qui rebondit de 0,9 ce mois-ci. Donc, on voit que l'économie américaine est assez résiliente, malgré tout.
Et donc, elle n'a pas besoin de baisse de taux pour repartir. C'est comme ça
finalement qu'il faut le comprendre. Et qu'elle arrive à s'en sortir malgré des taux élevés. Donc, ça rassure quand même les marchés, oui. Et ils se disent, pour le coup, ce n'est pas si grave que ça, que ces baisses de taux soient reportées dans le temps, puisque ça ne génère pas, pendant ce temps-là, un effondrement de l'économie.
Et ça, c'est un constat qu'on peut faire si on met de côté les 7 magnifiques.
Oui, alors évidemment, boursièrement, si on met de côté les 7 magnifiques, la tête du marché américain est beaucoup moins avenante. Mais oui, on voit bien que c'est l'économie au global qui quand même s'en sort pas mal, quoi.
Bon, on reviendra sur les sujets intelligence artificielle dans un instant. Alexandre Baradez, votre analyse également sur la semaine qui vient de s'écouler et mais même question ouverte, puisque c'est vrai qu'on a tendance à aller directement sur le marché français et on va en parler, puisqu'il y a quand même un risque politique qui est intégré par le marché, puisque ça fait une semaine, en tout cas ça a duré pendant une semaine. On voit effectivement un CAC 40 qui rebondit légèrement aujourd'hui. Ça n'est qu'une économie, ça n'est qu'un marché dans une économie au sein de la zone euro et qui n'est pas forcément effectivement celle qui tire les marchés financiers. Pour autant, ça reste une grande économie internationale avec un risque.
Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est une piqûre de rappel. Souvent, on a tendance à dire le CAC 40, c'est pas la France. Et c'est vrai, des LVMH, des Total qui ont une exposition absolument mondiale, on disait, bon, les sujets domestiques, on peut d'emprunt sur l'indice français. Et depuis, finalement, la crise de la dette en zone euro 2011-2012, on n'avait pas vu de réaction, même dans des seconds tours où l'extrême droite était présente. Il y avait eu très peu de réactions. Donc, c'est la première fois depuis la crise de la dette, finalement, qu'on a une réaction du marché action qui est aussi fort. Parce qu'on voit que les sujets de fiscalité dans les programmes des opposants ou de ceux qui former une coalition, sont assez présents. On reparle de taxes sur les super-profits, on reparle de taxes sur les 1% les plus riches ou autres. Donc, on voit bien que le regard se tourne vers les banques, vers les valeurs du luxe, vers les valeurs énergie haute. Donc, tout le monde a baissé d'un cran parce que, finalement, on se rend compte que les sujets domestiques peuvent avoir un impact fiscal sur des groupes qui sont pourtant de dimension mondiale. Donc, c'est quand même une piqûre de rappel que le CAC, ce n'est pas la France dans l'exposition revenu chiffre d'affaires, mais c'est en revanche par rapport à la position du siège et donc à la base taxable. Ça c'est le premier constat. Alors ensuite, il y a quand même je trouve que la réaction du marché est quand même très équilibrée jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de panique non plus. 6% de baisse, on est à -9 sur le CAC depuis le sommet de mai, mais lié à l'événement politique, c'est 6% avec un petit rebond derrière. Et sur le marché obligataire, on voit qu'il y a deux strates. La première couche de risque, elle a été activée, c'est-à-dire on dévie les flux des obligations françaises, on va chercher plutôt les obligations allemandes. Donc c'est ça qui génère l'écart
bien sûr,
de taux.
Oui. En tout cas, en fin de semaine.
Pardon ?
En tout cas, en fin de semaine, en début de semaine, c'est plutôt...
Oui. Et en revanche, la deuxième couche qui serait plus problématique, celle-ci n'est pas encore activée, et espérons qu'elle ne le soit pas, c'est-à-dire on ne touche pas encore aux obligations françaises trop dans les portefeuilles, c'est-à-dire qu'on les conserve, je pense qu'on ne les surpondère pas.
On ne les vend pas.
Voilà, on ne voit pas, parce que le taux 10 ans, et au moment où on se parle, on est à nouveau à 3,11, 3,12, c'est exactement le niveau qu'on avait le vendredi avant dissolution. Donc on a fait un aller-retour à 3,30, 3,35, et on est revenu. Donc,
c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a vu du stress effectivement sur cette dette française, finalement on est revenu au même niveau, mais on a vu quand même que maintenant ça... On va quand même sur la dette allemande parce qu'il y a un peu plus de stabilité, en tout cas vu aujourd'hui par un certain nombre d'investisseurs ou de créanciers.
Oui, il y a cet aspect-là. Et il y a un autre marqueur qui est les devises aussi. L'euro ne s'est pas effondré. C'est-à-dire qu'on a eu 1,5% de baisse, grosso modo, la semaine dernière. C'est très limité, 1,5%. On a parfois des phases comme ça sur des simples deltas de chiffres Europe-US. Donc, ce n'est pas un mouvement non plus d'aversion à l'Europe. Donc, à ce stade, je trouve que la réaction est plutôt bien mesurée. Simplement, il y a quelque chose ça interpelle. J'ai pas la réponse, mais on a des écarts de volatilité qui sont quand même assez significatifs désormais entre les marchés européens et les marchés américains sur la partie actions. On est monté en gros à 22 de volatilité en Europe. C'est pas la panique, encore une fois, mais les US, eux, sont, et Marc le disait très bien, ils sont indestructibles. C'est-à-dire que les hausses de taux soient pricées, ensuite divisées par 6, que la Fed soit plus accommodante, plus hawkish, que les stats soient, à mon avis, plus fortes, plus moins. On a l'impression que tout est argument, et là récemment encore, valeur refuge US. Regardez, le dollar est acheté, les valeurs US sont achetées parce que c'est instable en Europe. Et on a l'impression de cet empilement de couche qui fait que la vol américaine est très faible. Seulement dans l'histoire de graphique, ce que la graphique nous montre, c'est que quand la vol progresse d'un côté, soit US, soit Europe, normalement l'autre indice de vol a tendance à suivre. Je ne dis pas que la même puissance, mais le momentum est quand même le même. Et là, on a vraiment une divergence de momentum. Donc soit, et espérons que ça se passe comme ça, la vol Europe retombe d'un coup parce qu'on est rassuré par tout cet aspect politique.
Le 8 juillet.
Voilà. Soit, il n'y aura pas trop le choix. C'est la vol US qui va devoir rattraper un peu son retard. Et si on se souvient, je m'arrête là-dessus, en 2011, c'était vraiment la panique 2011, hein, c'était pas la situation actuelle, mais le S&P avait quand même lâché entre le mois de mai et le plus bas d'octobre 20%. Avant de surprendre, après c'était reparti très vite, hein, mais il y avait quand même 20% de baisse du S&P sur les européen. Donc, je me dis à quel moment les US, ils doivent embrayer. Je dirais que c'est plutôt là que ça doit se passer maintenant, peut-être se couvrir un petit peu. Ou alors, effectivement, on est très vite rassuré sur l'Europe. Mais à un moment donné, cette divergence de volatilité, dans l'histoire, on voit qu'elle n'a pas vocation à durer.
Un mot encore sur cette situation française dans un contexte européen. Alors, on parle des marchés actions, des marchés obligataires. On parle effectivement d'un risque politique pricée par les marchés qui pourrait avoir une incidence sur l'économie française. Est-ce que c'est un risque franco-français ou est-ce que ça devient un risque européen si jamais, en fonction d'un résultat de l'élection le 8 mai prochain ?
J'ai l'impression que tous les sujets nationaux, surtout quand ça concerne les top 3, hein, Allemagne, France, Italie, automatiquement c'est des sujets européens, parce que se posent des questions de géopolitique, se posent des questions d'intégration européenne, de budget européen, d'investissement, de repli sur soi, de position par rapport à la Chine. Enfin, tous les sujets aujourd'hui sont à ce fond à l'échelle européenne, tout est négocié à l'échelle européenne, et tant mieux. Donc c'est forcément un sujet européen. Mais ce qui est rassurant encore une fois à ce stade, c'est que par exemple les spreads sur l'Italie, Bon, ça a un peu bougé, on est monté à 140-150 points de base. Alors, on rappelle qu'à l'époque de la crise de la dette en zone euro, c'était 550 points de base entre le Bund et le BTP, donc les obligations italiennes. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans la panique, mais on price, on intègre une forme de risque.
Aymeric Didet, bon, j'ai commencé avec une question ouverte et finalement j'arrive quand même sur le sujet France, sur le sujet CAC 40. On entend, et j'ai entendu d'ailleurs hier dans cette émission, plusieurs invités dire bon, les États-Unis ont eu le risque de l'élection de Donald Trump, on avait annoncé que les marchés financiers le vivraient mal, ça n'a pas duré si longtemps que ça. On a eu le Brexit au Royaume-Uni, plus récemment on a eu l'élection de Meloni en Italie. Est-ce que c'est notre moment à nous en France de... je cite, un rejet d'une mondialisation ou de certaines élites, et que finalement, derrière, les marchés financiers s'adapteront et peut-être que la politique aussi s'adaptera et on finira par trouver un équilibre qui fonctionnera comme ce qu'on a pu voir dans d'autres pays.
Alors aujourd'hui, en tout cas, on a les triptyques qui marchent bien, c'est-à-dire incertitude, volatilité, baisse des marchés. Ça, on a eu le triptyque classique et ça s'est fait en effet de manière extrêmement organisée. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que oui, on a de la baisse assez importante puisqu'on revient à zéro sur le CAC 40 par exemple, mais quelque part d'une façon assez organisée sans qu'il y ait de dislocation de marché. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, on a un peu quelque chose qui est quelque part un peu rassurant par rapport à l'évolution et au fonctionnement de l'économie et du marché. C'est-à-dire qu'il y a l'incertitude, oui, ça c'est clair. Elle va avoir éventuellement des conséquences, peut-être, parce qu'au final, on est souvent, quand on parle de politique et de géopolitique, dans du bruit sur les marchés financiers, parce que justement, on est dans des systèmes organisés, dans des démocraties qui ont des règles et qui sont aujourd'hui globalisées dans un monde qui est bien organisé. C'est-à-dire qu'on a des règles européennes, des règles budgétaires. Alors certains voudront éventuellement les adapter, en sortir ou autre, mais clairement, pour le moment, il y a des règles et elles sont appliquées. Regardez ce qui s'est passé en Italie ou dans d'autres pays d'Europe qui ont vu des partis divers extrêmes éventuellement arriver au pouvoir. Au final, la croissance des entreprises est repartie de l'avant et ça n'a pas empêché les entreprises de repartir de l'avant, et notamment les marchés financiers actions. Donc ça, c'est plutôt des points positifs pour l'investisseur, que ce soit l'investisseur en actions évidemment, mais aussi pour l'investisseur en obligations. On l'a vu, il y a des petits écartements de spread de crédit, donc qui montrent là aussi que cette incertitude existe, mais au final, pour le moment, ça se fait dans des marchés qui sont plutôt organisés, dans des évolutions organisées.
70 points de base entre l'OAT et le Bund, c'est un petit écartement suffisant pour alerter, mais...
C'est un écartement qu'il faut regarder, qu'il faut suivre, qu'il faut évidemment monitorer tous les jours, mais vous regardez, aujourd'hui, où on a des marchés qui semblent se stabiliser, ben, il n'y a pas eu d'écartement aujourd'hui des spreads de crédit. Donc c'est là où, aujourd'hui, pour le moment en tout cas, on ne sait pas de quoi demain est fait, évidemment, mais en tout cas, pour le moment, ça se fait dans des niveaux qui sont quelque part logiques, rationnels et quelque part un tout petit peu rassurants. On parlait tout à l'heure de l'élection de Donald Trump. Tous les économistes ont dit que ça va être une catastrophe, un marasme économique après si Trump est élu. Moi, je veux bien des marasmes économiques avec une croissance telle qu'on a connue aux États-Unis pour l'Europe. Aujourd'hui, quand on voit l'état de l'Europe par rapport à sa croissance réelle, et on en revient au sujet des banques centrales, on a un retard qui est quand même colossal dans la croissance européenne. Donc de temps en temps, on va dire que ce qui était prévu par les économistes ne se déroule pas forcément comme l'économie va vraiment évoluer. Donc c'est pour ça qu'on regardera un tout petit peu plus avec une échelle de temps un peu plus longue, et se dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec un recul des marchés tel qu'on a connu, on n'a pas envie de remettre en tout cas un peu de risque sur certaines valeurs qui sont très internationales, parce qu'on le disait, les valeurs du CAC 40 aujourd'hui, le chiffre d'affaires des sociétés du CAC liées à l'économie française, c'est 15%.
Oui, donc, ouais, c'est ça.
Au final,
donc une exposition à la France pas si énorme,
et
globalement.
Et ça se retrouve dans les indices, puisque le CAC a perdu 6. Vous regardez l'économie des petites capitalisations, celles qui sont pour le coup beaucoup plus liées à l'économie française, ces valeurs-là, elles ont perdu 11%. Les small caps, l'indice small français, a perdu 11% la semaine dernière. Donc, encore une fois, ça se fait avec dans des marchés qui ne sont pas disloqués. Et ça, quelque part, pour l'investisseur qui a un horizon de placement un tout petit peu plus long et qui est capable de subir cette volatilité, ça peut être évidemment potentiellement des moments de faire des arbitrages et d'aller sur des valeurs, grandes, belles valeurs solides qui peuvent passer ce type de crise sans souci.
Je reste sur le risque politique, et je vais même aller sur le politique, ou en tout cas sur les déclarations politiques. Bruno Le Maire qui annonce que si tel ou tel parti passe, enfin en tout cas a suffisamment de députés lors de l'élection législative, on parle de crise financière en France. Là, pareil, on est dans le domaine du bruit, de la déclaration politique, mais les marchés financiers sont plus solides et plus sereins.
On est surtout dans le domaine de l'incertitude, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui va être élu, on n'en a aucune idée. Dire qu'il va y avoir une crise politique, encore une fois, on est dans des marchés qui sont organisés, avec des limites budgétaires qui sont fixées par l'Europe, et des lois qui ne sont pas votées uniquement par l'Assemblée, mais aussi le Sénat. Donc, il y a des institutions financières en France, et l'Italie, d'ailleurs, nous l'a prouvé. On peut avoir des volontés, des programmes, des effets d'annonce par les politiques, qui sont quand même des spécialistes, hein, tout bord confondu, évidemment, à annoncer tout et son contraire. Donc clairement, ils peuvent annoncer tout ce qu'ils veulent. Ce qui compte à la fin de la journée, notamment pour l'investisseur, c'est j'investis dans une entreprise ou dans la dette d'une entreprise. Est-ce qu'elle va être capable de me rembourser pour l'entreprise, pour celui qui investit dans la dette d'entreprise, ou l'actionnaire, est-ce que l'entreprise va dégager des bénéfices, va croître, et ça, aujourd'hui, ce sont des entreprises, pour beaucoup, qui sont privées. Donc aujourd'hui, on reste et on s'accroche quand même au pragmatisme des marchés financiers et sur des marchés qui, encore une fois, fonctionnent, en tout cas encore aujourd'hui, de manière tout ce qu'il y a de plus normaux, même s'il y a de la volatilité de court terme.
Marc Riez, oui. Si on regarde la dette française, donc spread, oui. Écartement des spreads entre la France et l'Allemagne. La France se rapproche d'autres pays périphériques.
Ah oui, qui ont fait des réformes.
Peut-on rester dans cette situation longtemps? Enfin, peut-on accepter de rester dans cette situation longtemps? Et cela peut-il mener la BCE à intervenir ou à envisager d'intervenir, même si ça ne fait pas forcément partie de son mandat?
Je pense que malheureusement, oui, on va rester dans cette situation assez longtemps, parce que quand on parle des pays dont la situation s'est améliorée, en particulier le Portugal, l'Irlande, l'Espagne, et même dans une certaine mesure l'Italie, il ne faut pas oublier que ce sont des pays qui ont mené des réformes drastiques de réduction de la dépense publique. Or, dans les discours des différents acteurs qui nous entourent, de l'extrême gauche à l'extrême droite, je dirais, on n'entend personne vouloir réduire la dépense publique.
C'est plutôt le contraire même.
Plutôt largement le contraire. Donc on n'est pas du tout dans une dynamique dans laquelle la situation de la France va s'améliorer, quel que soit le résultat de l'élection. Donc, malheureusement, oui, il faut qu'on s'habitue à ce que la note du pays soit dégradée au fil de l'eau, que l'écart avec l'Allemagne s'écarte, et que certains pays qu'on regardait avec un certain mépris il y a quelques années
se rapprochent, ou qu'on se rapproche d'eux en tout cas.
Par contre, payent leur endettement moins cher que nous. On voit pour le Portugal. Bon, voilà. Bon. Donc oui, bah c'est... Après, je pense qu'il y a un moment quand même où la population va se dire, bah là, on peut pas aller plus loin que ça, et puis il y aura des conséquences, hein, de toute façon. Donc voilà, il y a un moment où la réalité, la triste réalité va nous rattraper, mais on sent bien que c'est pas maintenant, c'est pas à cette élection-là que les gens vont se dire, bah tiens, voilà, maintenant, je veux plus que l'État dépense, je veux me serrer la ceinture, je veux faire des efforts. Non, on n'est pas du tout sur ce... sur cette logique collective-là, de notre population,
sûr,
de notre
oui.
société dans laquelle on est. Voilà. Donc malheureusement, et voilà, ça, pour ça, il va falloir faire avec. Nous, si vous voulez, ce qu'on constate quand même, c'est que d'une manière générale, quand il y a des baisses de marché liées à ce type d'événement, pandémie, guerre, élections, problèmes géostratégiques et tout ça, qui n'ont pas d'impact important direct sur la marge de l'économie mondiale, de notre point de vue, c'est plutôt des bons moments pour acheter.
D'accord.
C'est la raison pour laquelle, vendredi dernier, quand c'était une journée un peu... Voilà, on s'est dit, chez Vega, voilà, nous, on va racheter des actions européennes, et en particulier des actions françaises.
Donc, regardez plutôt le moment d'opportunité.
Voilà. En fait, on se dit, voilà, cette baisse, elle nous ramène au niveau de la fin de l'année 2023. Or, depuis fin 2023, l'inflation diminue. La BCE a commencé à baisser ses taux, on voit qu'il va y avoir d'autres baisses devant nous, les résultats des entreprises montent de manière assez importante, il y a une croissance au niveau mondial qui se reprend un peu, qui tient aux États-Unis, qui redémarre un peu en Chine, qui redémarre un peu en Europe. Donc pour nous, celui qui payait 7500 le 31 décembre 2023 sur le CAC n'a aucune raison de ne pas payer 7500 le 17 ou le 18 juin, dans des conditions où normalement les entreprises valent plus cher qu'elles valaient en début d'année. Donc pour nous, c'est se dire, voilà, c'est du bruit pour les marchés, hein, je parle, c'est
bien
pas,
sûr,
c'est
oui,
très
oui.
très sérieux du point de vue sociétal, du point de vue
Voilà. Non, mais la réaction des marchés financiers...
Mais en tout cas, oui. Du point de vue des marchés financiers, le fait que la France, malheureusement, s'écarte d'une trajectoire de rigueur, etc., c'est embêtant. C'est embêtant aussi pour nos partenaires européens, bien sûr, parce qu'ils font un peu caisse commune avec nous. Donc, il y en a un qui se met à tout dépenser. C'est dans une famille, c'est toujours un peu angoissant pour les
gens. Bien sûr, oui.
Bon, et on est désolé pour nos amis d'outre-Rhin, etc. Mais le fait est que, voilà, on est dans la même barque qui est la barque de l'euro. Donc, malheureusement, il faut qu'ils fassent avec nous. Mais du point de vue de l'investissement pour nos clients, du point de vue des entreprises, et c'était très bien dit tout à l'heure, hein, par mon confrère, c'est que voilà, les entreprises marchent bien, elles sont le vecteur de création de richesses, et quand il y a comme ça des baisses des marchés, en général, c'est plutôt l'occasion d'y aller. Il se peut qu'avec l'approche des élections, si c'est un peu chahuté au niveau des sondages, il y a à nouveau une phase un peu de baisse fin juin ou entre les deux tours, et si c'est le cas, on rachètera encore à ce moment-là. Mais pour l'instant, nous, on analyse plutôt ce qui se passe du point de vue de l'investissement comme une opportunité d'achat. J'espère que ça ne choque pas trop ce que je dis, mais voilà, c'est comme ça qu'on le voit.
Alexandre Baradez, plutôt un optimisme si on suit ce que nous dit Marc Riez sur les marchés financiers, alors européens ou américains, mais là on parle effectivement plutôt du marché français.
Sur l'Europe, oui, je partage l'avis de Marc. Je pense que des indices comme le MIB italien par exemple, et on peut faire des comparaisons un peu politiques aussi, mais le MIB italien, il reste toujours à 10 fois les bénéfices, là où on est à 15-16 fois pour le CAC, le DAX et pour le Stock 50 globalement. Donc par rapport à ce que le gouvernement d'extrême droite italien, mais c'est là aussi qu'on peut s'interroger, est-ce que l'extrême droite italienne, c'est l'extrême droite française, donc il y a des différences de profil aussi
bien sûr
là-dedans. Pourquoi l'Italie performe bien aussi? Parce qu'il y a des valeurs, de types de valeurs qui ont bien performé, valeurs un peu plus value, industrielles ou autres. Quand la Chine a montré des signaux un peu meilleurs, c'est PMI ou autres, avec les métaux qui reprenaient ou autres, c'est typiquement, et les banques aussi, les bancaires qui ont un super souffle, et il y en a beaucoup dans le monde italien.
Espagnol.
Voilà, donc ça, ça a porté. Mais il y a aussi effectivement les signaux envoyés par Meloni, c'est-à-dire que Meloni n'était pas anti-européenne, pas anti-euro, pas pro-russe, elle a voté les budgets européens, donc, et elle a procédé à quelques début de privatisation, enfin de vente de participation de l'État dans ces entreprises. Donc la volonté de faire un effort budgétaire, même si c'est une goutte d'eau, si c'est 10-20 milliards qu'on fait rentrer les caisses à l'échelle italienne qui est au 3 milliards, c'est pas grand-chose. Mais la volonté de faire mieux pour les marchés, ça compte.
Donc, bien sûr.
Oui. Je dirais que oui. Et on voit le MIB italien aujourd'hui, il est sur un plus bas de 4 mois à peu près, je pense. On est sur un range, on est un peu sur le bas du range. Donc oui, je partage tout à fait cet avis pour l'investisseur qui justement attendait des respirations pour payer. Celui qui regarde à 12-18 mois, il faut payer et probablement que peut-être un peu plus bas, de quoi payer un petit peu plus. Après, sur l'Europe, je suis de cet avis-là, c'est-à-dire de dire à les multiples actuels, même avant le choc là, politique, on n'était pas sur les multiples. C'est plutôt sur les États-Unis moi, que je me pose des questions, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure.
Peut en parler maintenant.
En plus, pour terminer sur la partie politique, c'est vrai qu'il y a quand même un exemple. Quand on disait Trump, effectivement, les marchés ont peu baissé, puis ça a catalysé derrière ou autre. Oui, parce que Trump aussi a eu ce gros plan fiscal au début de son mandat. Sous l'ère Obama, on avait un peu fait attention au déficit, il avait redéployé un peu le déficit, et après Biden l'a encore plus déployé derrière. Mais pour dire qu'il avait eu effectivement une certaine partie du mandat, il avait une souplesse budgétaire qui était possible à l'époque. Aujourd'hui, le successeur de Biden, donc soit un démocrate, soit un républicain, n'aura pas la même souplesse. Quand vous êtes à des déficits à 7-8% du PIB pendant 2-3 ans d'affilée, il y aura forcément, et les questions qu'on se pose sur la France aujourd'hui, l'Italie ou autre, sur la trajectoire budgétaire, c'est pour ça que je pourrais être là, de la réaction des marchés américains, qui pourrait commencer à titiller un peu sur l'aspect budgétaire aussi, c'est pas une question purement européenne.
Il suffira pas de voter de voter une fois encore une augmentation du budget, non, ça suffira pas.
Je dirais que le Trump de 2016 n'aura pas la même marge de manœuvre que le éventuel Trump de 2024, si c'était lui. À l'époque, il y a une souplesse possible qui me semble plus limitée aujourd'hui en termes fiscal budgétaire après les 3-4 ans de déploiement budgétaire post-Covid, plus le plan IRA, plus tout le reste. Ça a été de l'investissement et de l'endettement massif qui a servi à l'investissement aussi, mais forcément une période un peu plus je dis pas de vache maigre, c'est pas le propos, mais de petites convergences, voilà, de petites restrictions plutôt vers les 4% de déficit plutôt que les 7-8 qu'on a eu.
Et donc, resserrement budgétaire, mais dans une économie qui tient la route aux États-Unis.
Oui, alors, encore une fois, je ne veux pas apparaître comme le pessimiste sur les US parce que force est de constater que c'est la locomotive des marchés et le Nasdaq encore plus. Simplement, il y a la question de la cherté de ces marchés. Quand on regarde les références historiques, hein, c'est sans parler juste des 6 derniers mois, à 21 fois les bénéfices anticipés pour le SP500, c'est le niveau actuel, on a connu avant cela que deux phases ont été plus chères. 23 fois les bénéfices post-Covid, mais des taux à zéro, liquidité à gogo, et ensuite il faut remonter à 2000-2001 pour être à 26 fois les bénéfices. Et Nasdaq était beaucoup plus haut aussi en termes de multiples. Mais si on prend le S&P, on a beau dire, les boîtes faisaient moins de bénéfices, c'est les ratios, cours bénéfices, ratio. Donc on était à 25,5, 26 fois en 2000 avant que la bulle n'éclate. Donc 21 fois et post-subprime, au plus bas, c'était à 9,5 fois les bénéfices. Donc à 21 fois les bénéfices, d'un point de vue historique, avec des rendements en face, encore à quasiment 5% aux US sur du court terme, il y a de l'alternative. Et c'est là que je me dis, est-ce que on va laisser, et je pense que c'est un choix qui appartient presque à la Fed en fait. Les investisseurs, tant que ça tire, ils vont y aller. À un moment donné, est-ce qu'il y a un peu de symétrie dans le jugement marché ? C'est-à-dire, quand les marchés baissent fort, c'est instabilité financière, et Lagarde l'a bien dit cette semaine, elle a dit, pour la stabilité des prix, il faut qu'il y ait stabilité financière. Donc on comprend bien que s'il y a chute et choc de marché, il faut intervenir, ils nous l'ont montré à chaque fois. De l'autre côté du spectre, quand les marchés font plus 40, plus 50, et qu'à un moment donné, ça devient peut-être un peu cher par rapport à des fondamentaux qui restent bons, mais qui pourraient un peu s'affaiblir avec l'effet restrictif des politiques monétaires qui va progressivement se faire sentir, est-ce qu'on peut pas envoyer des petits signaux oraux, rhétorique pure, au marché, leur faire comprendre qu'il y a peut-être certains excès qui, s'ils ne sont pas un peu consolidés maintenant, pourrait donner dans un ou deux ans des chocs de marché, donc instabilité financière future. Selon moi, c'est le rôle aussi de la Fed d'anticiper des chocs futurs. Donc, on est au moment où, si on doit avoir une bulle se forme, c'est maintenant, parce qu'on a tous les ingrédients pour ça. Si la Fed, le marché accepte que les taux restent hauts, qu'on passe de 6 baisses de taux anticipées à une baisse de taux, que ça ne gêne personne, c'est là qu'on peut aller à 22, 23 fois les bénéfices. Donc, soit on accepte, les régulateurs US acceptent cette idée-là, soit on veut éviter les germes, on veut pas que ces germes d'une bulle future puissent se développer, et c'est à ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut commencer des discours. Powell en a un petit peu eu des discours à la dernière réunion, c'était quand même plutôt trois quarts semi-faucon que Colombe quand même, mais le marché n'entend pas ça. C'est-à-dire que les messages sont pas assez audibles, il faut du James Bullard, c'est un peu tapé sur la table à un moment donné, et ça on l'a plus, donc peut-être que c'est ce qui manque du côté des États-Unis pour calmer un peu, pour consolider un peu le mouvement actuel.
Aymeric Didet, sur la situation des marchés américains, ou sur en lien évidemment avec l'économie américaine, ou ce décalage tout simplement de la potentielle future baisse de taux de la Fed ?
Un gros décalage aujourd'hui, mais aussi un décalage qui est dû et qui est mal perçu souvent à cause de cette surperformance exceptionnelle de ces méga caps américaines.
Parce oui, qui vient cacher tout le reste. Oui.
Exactement. Et ça cache vraiment tout le reste, parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu de période aussi importante de hausse des marchés avec autant de valeurs en baisse ou avec des faibles performances dans le S&P 500. Et ça on oublie un tout petit peu de se le rappeler, c'est que la polarisation qu'on connaît, qui a toujours existé dans les marchés, mais celle qu'on connaît actuellement sur les 5, 7 grandes valeurs tech américaines, elle est exceptionnelle et aujourd'hui, elle cache quand même une réalité pour le reste de la cote qui est un tout petit peu différent, c'est qui est quelque part plus normative. C'est-à-dire qu'on a une croissance de ces sociétés, mais qui n'est pas du tout dans les mêmes ampleurs que celle de ces valeurs exceptionnellement chères et qui aujourd'hui tirent les valorisations de l'indice au global. Alors, c'est vrai, c'était vrai aussi en 2000, puisque là aussi, il y avait toute cette bulle Internet, ces valeurs Internet qui tiraient le marché et qui tiraient les valorisations. Donc, on ne peut pas dire que c'est uniquement ça. Mais maintenant...
C'est marrant, parce que la comparaison revient souvent, alors que, bon, généralement, on répond juste après, oui, mais aujourd'hui, les entreprises sont rentables. Mais,
là, on n'a plus des entreprises qui viennent voir avec un PowerPoint sans chiffre d'affaires. Là, on a des entreprises qui sont rentables avec un bénéfice. Donc, c'est un tout petit peu différent, là, clairement. Là-dessus, on n'est pas du tout sur les mêmes catalyseurs qui ont généré la crise de 2000. On n'est pas du tout dans la même histoire. Par contre, au niveau des valorisations, on a des niveaux de valorisation, notamment des grandes valeurs qui peuvent paraître quand même à un moment donné difficiles à justifier. Et c'est là où le discours en effet des banques centrales est extrêmement important, parce qu'il permet de calmer le jeu, calmer les anticipations et du coup de ramener un petit peu la réalité économique au centre du débat. Ce qui a permis à la Fed de maintenir des taux assez élevés, même si ça lui pose un énorme problème, parce qu'aux États-Unis d'avoir des taux au-dessus de 5, faut pas rêver, ça coûte cher quand on a le déficit qu'on a et qu'on a la dette qu'on a en termes de remboursement de la dette, de remboursement des taux d'intérêt, donc de la charge d'intérêt de la dette. Donc c'est pour ça que, pour nous en tout cas, on pense que le marché américain reste quand même une zone assez intéressante pour l'investisseur, parce qu'il y aura toujours ce soutien inconditionnel de la Réserve fédérale qui, à un moment donné, sera toujours prête, en cas de baisse des marchés, de rebaisser les taux, et elle va sûrement le faire quand même à un moment donné, pour ces raisons de charge de la dette, mais aussi pour accompagner une économie qui quand même continue à décroître aux États-Unis. Certes, c'est toujours de la croissance vertueuse, pérenne, mais elle décroît. Donc, encore une fois, les États-Unis, ça reste la zone où il faut continuer à investir, plus que l'Europe, surtout quand il y a des incertitudes géopolitiques en Europe. On va continuer
en France,
de privilégier...
En Europe, alors effectivement, il y a effectivement d'autres pays qui...
France, donc Europe,
d'accord.
Donc Europe. Donc on est quand même sur un des pays qui est fondateur de l'Europe. Donc en effet, ça, on l'a dit tout à l'heure, ça touche et ça peut impacter l'Europe d'un point de vue un peu plus large. Mais clairement, la zone d'investissement qui est la plus vertueuse, qui reste la plus vertueuse, ça reste les États-Unis. Malheureusement, j'ai tendance à dire, en tant qu'Européen, ça reste les États-Unis qui offrent la meilleure perspective pour les années à venir. Et puis, surtout, un dernier argument, c'est que le potentiel de baisse des taux est presque plus important, la marge de manœuvre est presque plus importante aux États-Unis qu'en Europe.
Même si on est parti avant.
Pour une fois, heureusement, elle a pris une bonne décision. Donc j'ai tendance à dire, ça y est, on l'a tellement attendu, elle a tellement fait d'erreurs de monter les taux en retard déjà il y a 2 ans. Donc, enfin, elle a pris les devants et elle a accepté de le faire avant la Fed. Donc c'est bien, c'est très bien. Mais il n'empêche que, et ça va continuer, c'est tant mieux pour l'économie européenne. Mais aux États-Unis, pragmatiquement parlant, quand on part de beaucoup plus haut, bah ça laisse beaucoup plus de marge de baisse de taux et beaucoup plus de marge pour accompagner l'économie dans sa croissance future.
Un mot, valeur, toujours avec vous, Aymeric Didet, une question peut-être un petit peu provocatrice et encore pas tellement. Peut-on performer aux États-Unis en bourse aujourd'hui si on ne marque pas intelligence artificielle dans son rapport d'activité ou dans son rapport prévisionnel ?
J'espère bien. Alors, heureusement, il y a plein d'autres secteurs aux États-Unis que les valeurs d'intelligence artificielle, que Nvidia, Microsoft, Amazon et maintenant Apple, qui sont les très grands leaders de l'intelligence artificielle. Ça, c'est très clair. Il y a ceux-là. Et puis, il y a les autres. Heureusement, il y a plein d'autres valeurs aux États-Unis. Alors, il y a les valeurs tech, il y a les valeurs du software. Toujours très intéressantes parce qu'elles ne sont pas forcément liées toutes à l'intelligence artificielle. Et là, pour le coup, les valorisations sont beaucoup plus abordables, sont revenues à des niveaux, on va dire qu'une valeur de l'intelligence artificielle, on se paye entre 15 et 25 fois le chiffre d'affaires. Une valeur du software, on est en dessous de 6 fois dans l'intégralité du secteur. Donc on est déjà beaucoup moins cher et avec des croissances bénéficiaires qui sont souvent tout ce qui est de plus agréable à regarder. Donc oui, il y a encore d'autres choses à faire. Après, il y a plein de sociétés, quand on voit que la consommation tient aux États-Unis, ben oui, vous allez regarder même un Walmart, cote quasiment sur ses plus hauts, vous allez regarder des valeurs comme Visa, vous allez regarder des grands leaders internationaux. Pour certains, il y a toujours de la volatilité, mais il y a encore, évidemment, plein d'autres valeurs qui sont investissables aux États-Unis en dehors des grandes 5 à 7 valeurs exceptionnelles de l'intelligence artificielle que sont Nvidia et compagnie.
Marc Riez, je vous pose la même question parce qu'effectivement, on parlait de bruit tout à l'heure quand on parle de géopolitique ou autre en lien avec les marchés financiers. Alors, loin de moi l'idée de dire que l'intelligence artificielle est un bruit sur les marchés financiers, on est plus sur une méga tendance. Mais n'empêche, lorsqu'une entreprise annonce un programme d'intelligence artificielle ou des premiers résultats, ça défraie tellement la chronique qu'on en oublierait presque qu'il y a d'autres économies, comment est-ce qu'on...
C'est vrai.
On regarde quand même, il y a d'autres activités, que ce soit en Europe ou aux États-Unis qui ont un potentiel de performance aujourd'hui.
Bien sûr, mais c'est vrai que c'est quand même le grand sujet du moment. C'est quand même un peu comme la révolution industrielle, comme la révolution technologique qu'on a eue avec les emails, Internet, etc. en 2000. On est vraiment sur quelque chose qui va changer en profondeur l'économie mondiale, qui va changer nos processus de travail, qui va bouleverser le monde du travail aussi, hein. Parce que beaucoup de jobs vont disparaître à cause de ça. Il va falloir.
Donc, non, d'autres apparaîtront également.
Il y aura des gains de productivité importants qui permettront peut-être justement de travailler moins durablement pour un même revenu. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont embarqués par ça. Et après, c'est nous gérants. Ben, on sait que c'est quelque chose d'important et de fondamental. Mais c'est comment on s'inscrit en fait, comment boursièrement on le joue. Alors, c'est vrai que pour le coup. On a compris que Nvidia y était. Bon, ça, je pense que ça c'est assez vu. Mais après, c'est vrai que on essaie de voir dans les entreprises lesquelles prennent ça en compte. Et donc, quand une entreprise assez intelligemment communique sur le sujet, c'est vrai que ça suscite.
On regarde ça de près.
Voilà. Alors après, ça peut être complètement cosmétique, c'est-à-dire qu'ils peuvent en parler alors que ça n'a absolument aucun impact sur leur business model ou sur leur marge. Et là, on se dit, c'est juste un coup de com. Mais on est quand même obligé, on ne peut pas mépriser ce sujet-là.
Au-delà de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous regardez, vous, Marc Riez, sur les marchés à l'heure actuelle ?
Nous, en fait, on a été beaucoup sur la technologie, on a été beaucoup sur la santé ces derniers temps également, puisque vous avez vu qu'il s'est passé aussi des découvertes majeures sur les sujets de l'obésité.
Bien sûr.
Voilà, avec Novo Nordisk, avec Eli Lilly, toutes ces valeurs-là. Et puis, on essaie aussi d'être sur des valeurs qui jouent cette transition énergétique. Alors, notamment dans nos portefeuilles, très souvent, la plus grosse ligne de nos portefeuilles, c'est Schneider. Schneider électrique.
D'accord. Ouais. Dont on parlait aujourd'hui, justement, sur le côté data center, en lien avec l'intelligence artificielle.
Voilà, pour les data centers, mais c'est vrai que c'est un leader mondial de la transition énergétique, de la gestion de l'électricité. Et pour le coup, ça fait partie des grandes valeurs. Et puis, on a traditionnellement dans nos portefeuilles des valeurs du luxe qui ont pas mal souffert quand même ces derniers mois, notamment vous avez vu que LVMH est revenu vers 700 euros et là encore vers 700 euros ça nous paraît intéressant à regarder, même si on est dans une phase un peu de correction, mais ça fait partie des choses qui font partie de nos grosses positions dans nos portefeuilles.
Le risque politique dont on parlait tout à l'heure, il a un impact sur les valeurs en lien avec la transition énergétique, justement, avec cette... puisque d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, on a des visions assez radicalement opposées sur le sujet. Ça peut mettre en risque certains investissements sur le sujet spécifique de la transition énergétique, ou encore une fois, effectivement, n'oublions pas que c'est un indice dans une économie, mais qu'on reste dans une économie globalisée.
Alors, les grands acteurs qui sont positionnés sur ces métiers-là, sont quand même internationaux. Mais c'est vrai que pour certains d'entre eux, une forte chute des commandes de l'État français pourrait effectivement avoir un impact négatif. C'est quand même à surveiller. Ça met en risque un certain nombre de fleurons français sur ce sujet. Bon, après, on a confiance en eux pour aller chercher de nouveaux clients ou pour vendre leur technologie ailleurs si la France n'est plus une terre de cocagne pour eux. Mais bon.
Alexandre Baradez, qu'est-ce que vous regardez dans le marché à l'heure actuelle dont on n'aurait pas parlé ou pas suffisamment parlé ce soir ?
Je rebondis sur les propos de Marc. Ça, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Il y a des niveaux de valo atteints sur le secteur des renouvelables dans leur ensemble. On est revenu quasiment sur les points bas, de la crise Covid. C'est-à-dire qu'on a fait tout le côté un peu envolé, voire un peu bulle post-Covid, a été totalement effacé. Donc on reste sur des niveaux qui attirent même le private equity, qui attirent les fonds privés, qui attirent le marché là-dedans parce que c'est vraiment pas cher. Donc il me semble que tout est là pour que ça sert de cible, que les budgets soient fléchés là-dessus, même si la France, à un moment donné, inquiète un peu, il n'y aura qu'un des budgets européens, mondiaux, même la Chine a investi à tour de bras dans le renouvelable, donc pour ces acteurs domestiques aussi, mais c'est un sujet qui paraît inévitable, et sur les valeurs actuelles, il vaut mieux en avoir que pas en avoir, très clairement. Après, il y a un deuxième sujet, c'est toujours une espèce de gros pot dans lequel on met un peu tout, c'est les émergents. Mais quand vous reprenez le MSCI Emerging Market, donc l'indice de référence, il est pas mal pondéré en Chine, il y a aussi beaucoup d'Inde, donc on a beaucoup progressé sur l'Inde, qui a eu la trajectoire inverse de la Chine, donc on se dit, l'Inde, c'est un peu moins bon depuis quelques temps, puis il y a quelques émergents, Mexique ou autre, ça n'était pas terrible au post-élection ou autre, mais quand vous regardez l'indice global, il est sur des niveaux, à la fois d'un point de vue technique aussi, il y a des repères techniques qui sont extrêmement solides sous nos pieds et qui ont été touchés quand la Chine était vraiment à tirer la langue. On est reparti, là aussi, grâce à la Chine, avec un rebond de plus de 20%, bull market même, sur des indices comme le Hang Seng ou autre, ça respire un peu, mais la structure du MSCI Emerging est toujours favorable, c'est-à-dire qu'au pire, on est un peu freiné dans la reprise de l'indice mondial, je parle, qui inclut tous les émergents, mais je trouve que c'est des points très intéressants, surtout si, alors ça peut y aller peut-être moins vite que certains l'espèrent, les baisses de taux de la Fed, mais quand les baisses de taux vont commencer à s'enclencher, que l'économie US va ralentir aussi un petit peu, je pense qu'il y a des effets un peu mécaniques vers les émergents en général, liés à des temps des taux US et au dollar. Donc il me semble que les portes d'entrée sont plutôt bonnes actuellement pour les émergents, ça tente un peu de conso, mais pour moi les gros bottoms sur le MSCI Emerging ont été faits. Pour moi, on ne reverra pas ces points bas qui étaient faits quand la Chine confinait, quand la Chine faisait n'importe quoi. Là, on est sur des choses plus lisibles en Chine en tout cas, et les quelques turbulences récentes, Mexico, pour ne remettre pas en cause le sentiment de reprise moyen terme sur les émergents. Il faut en avoir, et je pense que c'est une bonne carte à jouer pour les 12 prochains mois.
Aymeric Didet, effectivement, s'il y a une chose dont on n'a pas parlé et que vous regardez, c'est les émergents aussi, la Chine potentiellement ou...
Alors on va attendre un tout petit peu, nous, un catalyseur plus important, notamment en provenance de Chine. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est une zone qui redevient investissable, mais pour le coup, on va attendre d'avoir un vrai catalyseur, parce qu'on s'est quand même bien aperçu que les tensions commerciales avec la Chine, elles étaient évidemment avec les États-Unis. Le risque Trump est un énorme risque pour justement les tensions géopolitiques avec la Chine. Et l'Europe est en train aussi de rentrer en tension commerciale avec la partie chinoise. Donc là, pour le coup, on a un des gros piliers des émergents qui est encore problématique au sein de cet univers. Maintenant, sur le moyen long terme, on n'a pas trop d'inquiétude sur le pays. Ils ont une notion du temps qui n'est pas du tout la même que celle d'un Européen ou d'un Américain. Ils ont le temps avec eux, le temps n'a pas d'importance pour l'économie asiatique et chinoise. Donc clairement, aujourd'hui, ils sont sur des points bas, ils sont sur des points, des niveaux de, économiques où ils peuvent faire un plan de relance massive demain et donc donner énormément de visibilité pour les investissements là-bas. Et à ce moment-là, oui, on reviendrait de manière assez massive sur cette classe d'actifs. Mais on attend quand même qu'il y ait quelques décisions politiques un tout petit peu plus importantes que ce qu'on a eu pour le moment, qui sont des bonnes mesures relativement sérieuses qu'il faut prendre en compte. Mais ils peuvent aller beaucoup plus loin dans les plans de relance. Et on attendrait vraiment d'avoir quelque chose de plus important pour revenir massivement sur cette zone géographique. Surtout que dans les émergents, on a la partie chinoise, on a la partie indienne, en effet, qui a posé pas mal de soucis au niveau électoral. Hein. Il va repasser, mais avec une majorité qui n'est pas du tout celle qu'il avait prévue. Donc ça peut donner un peu de couac au niveau économique. Donc là, pour le coup, là, sur ces pays-là, que sont la Chine ou l'Inde, là, la politique a vraiment un impact extrêmement fort sur l'économie. Là où en Europe, on en a un tout petit peu moins, c'est ce qu'on disait au début de l'émission. Donc, c'est pour ça que pour le moment, on va mettre un tout petit peu ça de côté. Par contre, on regardera peut-être plus le Japon.
D'accord,
le Japon avec le yen à 170 contre euro.
Encore aujourd'hui, finalement.
Je crois qu'il y a peut-être une histoire à regarder parce que c'est un pays quand même, c'est le laboratoire du monde. Hein. Ils ont tout connu avant nous, hein, les crises technologiques, les taux à zéro. Ils ont tout connu, le vieillissement, ils ont tout connu avant nous.
Ouais.
Laboratoire du monde, le Japon. Et aujourd'hui, quand on regarde, c'est extrêmement intéressant de voir ce qui va se passer. Ils ont rêvé d'avoir de l'inflation au Japon pendant des années. Ils en ont enfin un petit peu. Et on sent qu'il y a une économie qui repart, avec plein de réformes qui ont été prises. Donc là aussi, il y a des histoires à regarder, à mon avis, plus intéressantes peut-être que les émergents à court terme, en attendant que les émergents se réveillent.
Merci, messieurs. On a commencé cette émission en parlant de la chute, ou en tout cas du recul du CAC 40 la semaine dernière. Vous avez quand même disséminé pas mal de points d'opportunité hein, sur différents secteurs géographiques ou dans différents secteurs d'activité. Merci Aymeric Didet, directeur de la gestion de Pergam. Merci Marc Ries, directeur général de Vega Investment. Et merci Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème.